L'Élysée dans la tourmente, anatomie d'un exécutif en crise.
Alors que la France traverse un blocage institutionnel sans précédent, retour sur ces moments de la Ve République où le sommet de l'État a vacillé, douté et menacé d'exploser. Quelles leçons pour aujourd'hui ?
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Jean Garrigue.
Épisode 3. 1974, mort de Pompidou, la République face à l'imprévu.
Grande tristesse, stop, vous informe décès président de la République, M. Georges Pompidou, stop. Télégramme envoyé dans toutes les préfectures le 2 avril 1974, peu après 23 heures, par Jacques Chirac, ministre de l'Intérieur. On poursuit notre conversation avec l'historien Jean Garrigue sur cette République et cet Élysée, en particulier le château dans la tourmente. Là, il est surtout en deuil, le château.
Oui, oui. La France est en deuil. On voit bien à ce moment-là à quel point, justement, cette fonction présidentielle, au-delà même de la personne de Georges Pompidou, qui restait appréciée des Français, d'autant plus qu'ils avaient vu depuis quelques mois, même des années, les souffrances enduré par le président. Au-delà de sa personne, on voit bien à quel point, là, il y a un vide. Quand le président disparaît, c'est comme le monarque d'Ancien Régime, véritablement. On parlait d'orphelin, de France orpheline à la mort du général de Gaulle. Quelque part, il y a aussi, à la mort de Georges Pompidou, cette sensation d'être orphelin du président de la République. D'autant plus que là, on n'a pas préparé du tout sa succession et que ça va donner lieu à une guerre, sanglante.
On va y revenir. Vous avez des souvenirs de sa mort ?
Alors moi, j'avoue que j'étais encore un peu trop jeune, malgré tout, pour avoir des souvenirs très précis. Mais on sait bien que ça se passait lors d'une soirée télévisée. Tout le monde regardait la télé à cette époque-là. Ouais. Ça devait se passer sur la deuxième chaîne où il y avait les dossiers de l'écran qui ont été interrompus. Enfin, le dossier de l'écran, c'était le rendez-vous, la grande messe catholique. Et soudain, un journaliste qui interrompt. Et là, on est dans quelque chose qui, je pense, a touché non seulement d'ailleurs les électeurs de droite, tous ceux qui soutenaient Georges Pompidou, mais l'ensemble des Français.
Ça a soulevé aussi un autre débat et j'aimerais qu'on en parle. Vous avez travaillé sur la République incarnée, sur l'action du corps du président. La maladie, le secret, il y a eu quand même beaucoup de non-dits, voire de mensonges. Ah oui. Racontez-nous un peu ça.
Oui, alors c'est vrai que Georges Pompidou a toujours tenu, lorsqu'il s'est aperçu de sa maladie quand même, 3 ou 4 ans avant de disparaître, et même un peu plus. Et il l'a su aussi par l'intermédiaire de son fils adoptif, qui était médecin, qui lui a expliqué très précisément sa maladie. Il a souhaité que les Français ne soient pas au courant. On était dans le régime du secret total. Ce qui pose évidemment des questionnements sur la transparence démocratique, etc. Là, au fond, finalement, personne ne s'est vraiment soucié de cette transparence. Il n'y a pas eu les polémiques qu'on a pu trouver plus tard autour de Jacques Chirac
ou d'abord François Mitterrand.
C'était finalement une sorte d'omerta admise par le milieu politico-médiatique, même si l'on voyait de plus en plus Georges Pompidou soumis à un traitement à la cortisone, de plus en plus bouffi, de plus en plus difficile dans sa manière de parler, de se déplacer. Bon, c'était des images même un peu pathétique, un peu tragique du président de la République, mais le secret faisait partie à ce moment-là de l'exercice de la fonction présidentielle. Là encore, survivance de procédés monarchiques, en fait. Le monarque ne devait pas apparaître en situation de faiblesse. Le monarque est celui qui est insubmersible, qui ne peut pas être, comme le commun des mortels, victime de maladies ou de fragilités. Donc il y avait ce souci de préserver comme ça. Et jusqu'au bout, jusqu'au dernier Conseil des ministres, une semaine avant de disparaître, Georges Pompidou, je n'ai plus les termes exacts, mais enfin, a l'air de dire à ses ministres, bon, ne m'enterrez pas trop vite, je vais revenir.
De quoi souffrait-il ?
De la maladie de Waldenström, qui est une maladie que j'aurais du mal à vous décrire, mais qu'une sorte
ni
de...
Moi ne
sommes médecins. Oui, c'est une forme de cancer assez rare, qu'à l'époque on ne savait pas soigner. Peut-être qu'aujourd'hui il aurait été mieux pris en charge. Mais cette maladie, je le répète, n'a jamais été communiquée à qui que ce soit. C'était un secret entre lui et ses médecins.
L'opposition n'en a jamais fait usage ?
L'opposition, à ma connaissance, n'a pas du tout polémiqué autour de ça, ne s'est même pas questionné ou n'a même pas critiqué justement cette fragilité du président de la République. Au fond, c'était comme s'il y avait une sorte, il y aurait une sorte de déshonneur à utiliser cette fragilité du monarque.
Je profite de votre connaissance fine aussi de la Troisième République. Vous avez parlé de la monarchie, mais restons en République. Oui. Est-ce qu'il y a eu des précédents de présidents malades, de présidents souffrants, de présidents mourants, dont on aurait caché la réalité de l'état de santé ?
Je n'en vois pas, en fait. Ouais. Je n'en vois pas. C'était des présidents relativement en bonne santé.
Ils dormaient mieux. Ils dormaient mieux.
Ils dormaient beaucoup mieux. des bons méridionaux, bons vivants. On leur reprochait, alors à certains, on leur reprochait justement de profiter un peu trop de la vie.
Des banquets.
Les banquets, la bonne chère. Mais je ne vois pas de président qui, à l'époque, ait pu comme ça décliner. Il y a eu la femme, alors, du dernier président de la 4e République, René Coty, Germaine Coty, qui, elle, est décédée en cours de mandat, c'est qui, au passage, à propos de l'incarnation, a provoqué un deuil national, une émotion dont on a peine à imaginer aujourd'hui l'écho. C'est-à-dire qu'on peut se demander si nous avions perdu une femme de président ces dernières années, au XXIe siècle, je ne suis pas sûr que l'émotion aurait été à la mesure de ce que les Français ont éprouvé par rapport à Germaine Coty, ce qui montre à quel point, je le répète, cette fonction d'incarnation était forte à l'époque.
Restons, parce que ça me passionne sur la question de l'incarnation et du corps du président. Le général de Gaulle, c'était la grandeur de la France, quand on m'est fait 2 mètres avec son képi, ça aide. Non, mais Georges Pompidou, c'est aussi une période de crise économique qui arrive. D'affaiblissement de la France. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question du corps qui raconte aussi quelque chose de l'état de la nation ?
Oui, vous avez raison, parce que Georges Pompidou, c'est d'abord, au contraire, le massif.
Oui, exactement.
Le massif central, dont tout l'été issu du Cantal.
C'est pas mal comme expression, le massif central.
Le massif central.
C'est un bon titre de roman.
C'était une rondeur, c'était quelque chose d'épais, de solide, de paysan, du terroir, puisqu'il était petit-fils de paysan, etc.
Donc, il a pu rassurer après la mort du général.
Exactement, qui rassurait les Français. Et c'est vrai aussi que la coïncidence entre son affaiblissement, l'affaiblissement du corps du président, de la santé du président, et l'affaiblissement de l'économie française, lui qui avait incarné, au contraire, une sorte d'apogée de la croissance, est tout à fait troublante.
Oui.
Et c'est vrai que, d'où la nécessité pour celui qui lui succède, d'incarner une forme de régénération par la jeunesse, ce que Chaban-Delmas, dans sa campagne, n'a pas su incarner, alors que c'était un grand sportif, etc., mais ce que Giscard, habilement, va comprendre. Et il y a quelque chose quand même dans cette campagne giscardienne autour de la jeunesse où il se fait photographier avec sa fille, etc. Où il est vraiment le candidat d'une régénération. Il y a quelque chose d'un parallélisme avec l'affaiblissement, la fragilisation de son prédécesseur.
Et cette régénération, elle est aussi intéressante dans le rapport entre Giscard et Pompidou sur une forme de transparence aussi.
C'est vrai qu'avec Giscard, on entre dans une nouvelle période où la transparence n'est pas totale, puisqu'on sait, par exemple, que Giscard, à partir de 20h, disait que il n'était plus président de la République et que à 20h, il n'y avait plus de président de la République. Giscard mettait un point d'honneur à avoir ses soirées pour lui, ce qui lui a d'ailleurs coûté cette fameuse affaire du laitier, c'est-à-dire qu'au début de sa présidence, il a un accident aux petites heures du matin avec une voiture qui lui a été, une voiture de sport qui a été prêtée, on dit sans doute par Roger Vadim, et il heurte la camionnette d'un laitier. Et on dit qu'il était avec une jeune femme. Certains ont dit que c'était l'actrice Marlène Jobert. Bon, tout ça reste assez mystérieux. Mais en tout cas, cette histoire est véritable. Et elle vous montre, malgré tout, que Giscard savait se ménager des phases d'intimité ou de vie privée. Mais il n'empêche que sa campagne et l'image qu'il veut donner, c'est celle d'un président transparent qui va donner ses bulletins de santé, qui... qui dénude son corps.
C'est
important. Il se montre à la plage, il se montre sortant de l'eau avant même Dominique de Villepin, bien des années plus tard. Il se montre au sport d'hiver, en jouant au tennis, etc. Il y a une sorte de dévoilement de l'intime. Il montre sa famille, ses enfants, ce que ne faisait pas du tout le général de Gaulle, ou même Georges Pompidou. Georges Pompidou, on le voyait un petit peu se balader avec, avec son épouse, Bibiche, en Bretagne ou ailleurs. Mais là, avec Giscard, vous avez quelque chose d'une volonté de transparence.
Mais si je n'oublie pas notre série sur La République dans la tourmente, est-ce que ça ne prépare pas aussi des tourmentes à venir? Parce que à montrer sa famille... Et sa famille qui va bien, son corps qui va bien, on risque aussi que quand ça va moins bien, on le voit encore plus.
Ah ben complètement, c'est vrai qu'on ouvre la boîte de Pandore de ce qu'il y aura plus tard, par exemple avec Nicolas Sarkozy.
Oui, je pensais à lui, bien sûr.
Voilà, toutes les démêlées sentimentales de Nicolas Sarkozy avec sa deuxième femme, Cécilia. Tout ça, évidemment, ça commence avec Giscard. C'est vraiment avec Giscard que le président sort de la solennité gaullienne pour aller vers quelque chose de plus proche. Il le dit, je veux regarder la France au fond des yeux.
Ouais.
Il s'invite chaque mois chez des Français, des Français moyens. Bon, il s'auto-invite malgré tout, mais enfin, il est quand même invité. Il reçoit les éboueurs au petit déjeuner à l'Élysée pour être plus proche des Français. Bref, il y a cette volonté de trancher véritablement avec toute l'époque de Gaulle-Pompidou et faire du président quelqu'un de plus accessible.
La différence est quand même forte avec François Mitterrand.
Ah oui.
Élu en 1981.
Oui, oui.
Comme quoi, ce sont des cycles aussi.
Ce sont des cycles.
C'est pas un mouvement vers plus de transparence,
non.
Vers plus de corps, vers plus de nudité.
Ouais,
sinon, je sais pas où on en serait aujourd'hui.
Non, mais vous avez raison. C'est vrai que Mitterrand, au contraire, lui, il veut revenir à une sorte de solennité presque pharaonique de la présidence de Gaulle, en fait. On revient véritablement. D'ailleurs, c'est très clair dans sa manière de s'habiller, sa manière de se comporter, dans sa manière de laisser son épouse à l'écart. Même si elle a un bureau à l'Élysée, elle n'est pas omniprésente comme dans la communication giscardienne, puisque une des caractéristiques de Giscard, ça a été d'avoir fait intervenir sa femme lors des fameux vœux de l'Élysée.
Oui.
C'était la deuxième année où il est avec Anémone derrière lui et lui demande de souhaiter ses voeux aux Français. Bref, une sorte d'américanisation, en fait.
C'est ça.
Que vous connaissez bien, Thomas. Et donc, au contraire, avec Mitterrand, on revient avec le secret. Mitterrand, c'est l'opacité, le secret dans ses décisions, dans sa manière de gouverner, dans sa vie privée.
Bien sûr.
Il dissimule une vie privée extrêmement bien remplie, mais qui doit être totalement secrète. Non, c'est vraiment le retour à une conception, on peut dire, gaullienne de la présidence.
Et la santé ?
La santé, de la même manière.
On ne dit rien. Le cancer.
On ne dit rien. On a un médecin qui accepte de jouer le jeu du secret et on ne sait rien de son cancer de la prostate. Alors que il est détecté au moment où il arrive à l'Élysée, c'est-à-dire dès 1981, de 81 jusqu'à quasiment la fin de ces deux septennats, on ne saura pas vraiment, ou on ne saura rien de son état de santé.
La dimension cyclique m'intéresse pour terminer cet épisode. On a un cycle entamé donc à la mort de Pompidou, qui s'achève d'une certaine manière en 81 avec la victoire de Mitterrand.
Oui.
Et ce cycle réapparaît de transparence après, vous le voyez revenir ?
Oui, on le voit revenir malgré tout au moment de la présidence Chirac, mais peut-être surtout au moment où il est en cohabitation et où il a peut-être besoin de, non pas de se faire connaître, mais de donner une image plus séduisante, plus alléchante, plus proche. C'est-à-dire de cultiver, en fait, le contraste avec celui qui est, à l'époque, son premier ministre de cohabitation, qui est Lionel Jospin, et donc de, par contraste avec Lionel Jospin, le protestant un peu austère, question d'image, d'avoir une image plus proche des Français.
Cette cohabitation sera l'objet du cinquième épisode, mais pour le quatrième épisode, le prochain, on y revient aussi à la première cohabitation, celle de 1986. L'Élysée dans la tourmente, anatomie d'un exécutif en crise, est un podcast original de France Inter.